bonjour à tous. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevons aujourd'hui la lauréate du prix Renaudot Essai, l'écrivaine Justine Augier, pour « De l'ardeur » paru chez Actes Sud. Elle y dresse le portrait et revient sur les combats de l'avocate syrienne Razan Zaitouneh, disparue en décembre 2013 à Douma, près de Damas. Une figure militante, puis ombre de l'absence, à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Avant cela, travaillons notre port de tête à l'occasion de l'exposition parisienne Rubens, portrait princier, au musée du Luxembourg, avec l'historienne d'art Nadège Lanéry-Dagen et le romancier Philippe Forest, qui signe un court texte Rubens, sinon rien, dans la nouvelle collection RMN Grand Palais. Ils sont tous deux nos invités à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
On le recevait l'an passé pour son roman Cru chez Gallimard. Il nous revient en regardeur du peintre flamand avec Rien que Rubens, publié dans la nouvelle collection littéraire de la Réunion des musées nationaux, intitulée Cartel, cette collection. Un essai critique qui procède par fragments, c'est le vôtre. Philippe Forest, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Nadège Lanéry-Dagen, professeur d'histoire de l'art à l'École normale supérieure, spécialiste de la Renaissance et de la peinture moderne. Votre monographie Rubens, publiée en 2003 chez Hazan, vient d'être republiée à l'occasion de l'exposition Rubens, portrait princier, au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 14 janvier, orchestré par le conservateur en chef du musée des Beaux-Arts de Strasbourg, Dominique Jacquot. Vous avez par ailleurs contribué à ce catalogue, celui d'exposition qui se tient actuellement au Luxembourg, portrait princier, avec une contribution intitulée « Notre inventif Rubens ». Et c'est de lui dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Bonjour à vous Nadège.
Bonjour.
Notre goût lui donne tort, écrivez-vous Philippe Forest. Peintre star à l'époque, au début du 17e, Rubens a un peu perdu de sa superbe avec le temps. Son œuvre, malgré la formidable, durable et légitime renommée dont elle jouit, se trouve désormais un peu délaissée, écrivez-vous, quand ce n'est pas méprisé. Pourquoi ce déclassement du peintre à travers les siècles?
C'est ce que j'essaie d'expliquer au début du livre et ça rencontre un certain nombre de choses qui ont été dites par d'autres, et notamment par votre autre invité. Je crois que Rubens correspond très peu à l'idée que l'on se fait désormais d'un peintre, parce qu'il est trop peu maudit à notre goût. Et en ce sens, cette absence apparente, en tout cas, de tragique dans son œuvre, fait qu'il ne correspond pas à la conception que nous faisons de ce que doit être un artiste. Voilà.
Rubens ne cadre pas avec l'imagerie romantique de l'époque, Nadège Lanéry-Dagen. Hein. Un peintre sans blessure, une force qui va, ça n'excite pas les sens?
Un peintre sans blessure, je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine. Un peintre qui cache ses blessures, oui, je suis d'accord entièrement avec vous, Philippe. Encore faut-il savoir sa vie pour cela. Et le public ne prend guère la peine de savoir sa vie. Donc pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'en effet, j'en suis bien d'accord, ça ne correspond pas à notre goût? Encore que, on a le sentiment depuis une quinzaine d'années que cela revient, que le goût de Rubens revient, je m'en réjouis très fort. J'ai envie de dire que les formidables grandes machines colorées, pleines de chair, pleines d'histoire, pleines d'éléments de Rubens, autant du cinéma, des grands écrans, des grandes machineries, c'est plus tout à fait ce qu'on cherche dans la peinture. On cherche peut-être une sobriété, une intériorité qui évidemment ne correspond pas au goût de Rubens. Peut-être est-ce que c'est en train de revenir encore une fois et on peut se poser cette question. Pourquoi est-ce que subitement il y a plusieurs expositions Rubens? Pourquoi est-ce que vous nous invitez aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Philippe Forest écrit un livre sur Rubens? C'est quand même singulier.
Une ébauche de réponse, Philippe Forest, sur le pourquoi?
Le livre est un livre de commande, hein, comme vous l'avez expliqué. Il s'inscrit dans une nouvelle collection de la RMN où on demande à des écrivains donc de produire un texte un peu subjectif à l'occasion d'une grande exposition.
Mais vous n'avez pas choisi votre peintre alors?
Non, et j'ai interrogé Alina Gurdiel, qui dirige cette collection, sur le point de savoir pourquoi elle avait pensé à moi pour Rubens. Elle m'a dit C'était une évidence à ses yeux, mais elle était incapable de m'en dire davantage. Donc la raison de cette commande reste un peu mystérieuse, mais j'ai été particulièrement heureux de réaliser ce texte, justement parce qu'il m'entraînait loin des artistes et des écrivains sur lesquels j'ai déjà écrit. Loin dans le temps d'abord, parce qu'en général j'écris plutôt sur des artistes ou des écrivains du XXe siècle. Et puis aussi aux antipodes de l'univers... Qui est en général le mien et qui est très différent de en tout cas de la joie de vivre et de l'exubérance que l'on prête à Rubens. J'essaie de montrer effectivement qu'il y a aussi une dimension mélancolique dans son œuvre et que les blessures dont nous parlions sont bien présentes, mais elles sont d'autant plus intéressantes à sonder qu'elles s'inscrivent dans une œuvre qui est une œuvre rayonnante de sensualité. Et c'est quelque chose qui m'intéressait aussi.
Nadège Lanéry-Dagen, nous voyons Philippe Forès, peut-être que c'est parce qu'il pourrait être une figure de chair de Rubens qu'on a pensé à lui pour portraitiser ce peintre. Qu'en pensez-vous?
Oui, je m'abstiendrai peut-être de répondre pour Philippe Forès, mais oui, une figure de chair, une figure de peinture aussi. Je me demande s'il a des affections non seulement du public, mais des historiens, des critiques à la fin du XXe siècle, hein, je parle de l'époque récente, pour Rubens n'est pas lié à la désaffection tout simplement de ces mêmes critiques historiens pour la peinture. Vous savez, on a pronostiqué pendant très longtemps, à la fin du XXe siècle, que la peinture était morte. Merci, elle se porte extrêmement bien. Il y a de formidables peintres aujourd'hui. La peinture continue à vivre. Et c'est cette capacité de survie de la peinture et le nouvel attrait qu'elle exerce qui peut-être explique que Rubens revient. Parce que Rubens, c'est une chair de peinture. C'est la recherche de tout ce que l'on peut faire, et même au-delà, avec les moyens simplement d'un pinceau et de pigments.
Il n'y eut rien de commun avec le peintre imaginaire dont Balzac, dans son chef-d'œuvre inconnu, invente l'histoire, fixant pour longtemps une image de l'artiste impuissant et désespéré que multiplieront avec complaisance d'autres romanciers après lui. Peindre sa femme, peindre une femme, peindre des femmes, de préférence dévêtues, lui paraissait naturel. Il n'y voyait rien de sorcier ni de fatal. Il y mettait toute la générosité dont il était capable. C'est même ce que l'on retient le mieux de lui, le plus souvent pour lui en faire le reproche. Écrivez-vous, Philippe Forès, dans Rien que Rubens. Vous évoquez ce rapprochement avec le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, repris au cinéma par Jacques Rivette dans La Belle Noiseuse. Extrait.
La Belle Noiseuse, on peut la voir?
Mais elle n'existe pas, c'est une idée, c'est un projet que j'ai laissé tomber.
Mais si elle existe.
Quoi?
Mais si elle existe. Elle doit même être ici.
Est-ce que vous l'appelez la Belle Noiseuse?
Comme ça. C'est le nom de guerre d'une courtisane du XVIIe siècle, Catherine Lescaut. Elle a eu une existence insensée. En lisant sa vie, j'ai eu envie, brusquement, c'est du tableau. Je l'ai vu comme ça. C'était 3h du matin. Je n'arrivais pas à dormir.
À cause de moi?
Oh, tu peux rire, tout ça c'est de ta faute.
Moi?
Ah oui, la Belle Noiseuse, c'est toi?
Ça veut dire quoi exactement, noiseuse?
Ça vient de noise. Comme dans chercher noise.
Vous savez ça, vous?
Oui. J'ai vécu 4 ans au Québec quand j'étais petite, et là-bas on disait c'est une noiseuse, c'était rien qu'une noiseuse.
Ah, c'est ça, la querelleuse. La belle chieuse, quoi.
Alors, elle existe, ce tableau?
Non! Je vous ai dit non.
Et le peintre que joue, qu'incarne Michel Piccoli dans ce film, La Belle Noiseuse, aurait été inspiré par Poussin, un peintre solitaire, l'anti-Rubens, pourrait-on dire, peintre solitaire, là où Rubens était un peintre social, hein, Philippe Forest. On peut peut-être que se rappeler, si son œuvre n'est plus signifiante aujourd'hui, elle l'était à l'époque, et qu'on peut essayer de la comprendre à travers ce parcours, cette vie qu'a eu le peintre à ce moment-là. Pour ce faire, vous êtes donc vous, Philippe Forest, entré et vous vous êtes installé, comme vous dites, dans son œuvre, comme si vous étiez chez lui, pour tenter de le redécouvrir aujourd'hui, pour tenter de faire entendre ce que ses toiles ont encore à nous dire. Son credo à Rubens, c'était les champs de bataille, les grandes fresques historiques ou mythologiques, les portraits royaux ou les icônes religieuses. Il est né en exil, Rubens, il voit voyageait beaucoup. Il était soucieux de réussir socialement, non seulement par la fortune, mais par la reconnaissance des grands. Il se fit anoblir, écrivez-vous de votre côté, Nadège Lannery-Dagen. Ailleurs, l'ambition a contribué à l'amener à la politique. Peintre attitré des cours, c'était un artiste social, mais aussi un artiste politique pour vous ?
Oui, je voudrais juste rappeler que La Belle Noiseuse, dont vous avez choisi cet extrait tout à fait formidable, c'est un paradoxe parce que c'est Poussin et Poussin est censé peindre de belles femmes. Dans le film, les toiles sont celles de Bernard Dufour, qui est mort il y a un an et demi et qui était un formidable peintre de femmes. Donc d'une certaine manière, il y a un lien entre cette image des femmes, cette image des peintres qui ont tant aimé les femmes. Alors, c'est pas par là que, bien sûr, Rubens est devenu, le peintre aimé des cours, quoique, vous savez, les premières tâches qu'on lui a demandées, il a beaucoup répugné à faire ça, il l'a laissé à quelqu'un d'autre, à Pourbus, finalement. Les premières tâches qu'on lui a demandées, c'est de peindre des copies des plus beaux tableaux de plus belles femmes de l'histoire. Et au fond, ça c'est intéressant qu'il soit entré en peinture
par la copie
des belles femmes. Alors il aura toujours préféré peindre les vrais modèles de femmes plutôt que cela. Mais au fond, il fait d'accord. C'est pour ça que cette exposition, je crois, sur les portraits princiers est intéressante. Il fait d'abord ce que lui demandent les grands de ce monde, c'est-à-dire des belles femmes, c'est-à-dire des portraits, pour obtenir ensuite ce qui l'intéresse vraiment et beaucoup plus, c'est-à-dire la possibilité de faire d'immenses compositions d'histoires qui mettent en scène des personnes et des passions, la peinture religieuse ou la peinture mythologique. Et à partir de là, il obtient en effet des fonctions, de l'argent, une reconnaissance.
Et ça lui plaît. C'est aussi ce qu'il cherche quelque part. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'était un artiste aux ordres ou un artiste politiquement correct?
Je dirais le contraire. C'est un artiste qui a usé de tout son savoir-faire diplomatique pour à la fois multiplier les patrons puissants, c'est-à-dire n'obéir à aucun, être peintre de cour mais ne jamais habiter à la cour, vendre à tout le monde. Mais vous savez, c'est pas totalement là, c'est peut-être mon seul point d'un peu de dissension avec Philippe Forest, l'historienne que je suis, dirait que le grand modèle, c'est Titien. Le grand modèle de Rubens, c'est l'entreprise de commerce international de peinture de Titien, c'est l'obéissance à de grands patrons qui sont partout et qui permettent ainsi de garder une totale indépendance.
Philippe Forest.
Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est un homme qui a voulu être libre, étant donné les conditions qui s'imposaient à lui, et donc il a fallu qu'il passe des compromis, qu'il transige. Il y a quand même dans l'étoile qu'il a consacrée à Marie de Médicis un aspect art officiel, art de propagande qu'on ne peut pas tout à fait nier, mais on aurait tort de le lui reprocher parce que ça serait commettre un anachronisme. C'est cette question de l'anachronisme, moi, qui m'a intéressé. C'est comment comprendre aujourd'hui un peintre qui appartient à une autre époque, qui a malgré tout des choses à nous dire, et c'est en cela qu'il nous intéresse, mais qui les dit nécessairement dans une autre langue que la nôtre. Donc c'est aussi une réflexion sur le temps, plus peut-être qu'une réflexion sur la peinture, ou autant qu'une réflexion sur la peinture que j'ai proposée.
Vous diriez, puisque vous faites effectivement du temps une donnée constitutive, qu'il appartenait à quel temps, Rubens ? Un temps inactuel, un temps moderne malgré tout ?
Un temps d'avant la modernité telle que nous la figurons, en tout cas. Enfin, moi, je pense la peinture surtout en des termes qui viennent d'écrivains comme par exemple Malraux, avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais qui détermine durablement un peu, ou qui se fait l'écho durablement, disons, d'une certaine vision de la modernité qui est encore la nôtre. Malraux dit la vraie peinture, la peinture moderne, celle qui commence avec Rembrandt, ou en tout cas avec Manet, c'est celle qui ne raconte pas, qui ne figure pas, qui finalement se célèbre elle-même, célèbre le style de l'artiste indépendamment de ce que ce style a à nous dire. Or, il est clair qu'une telle vision, on peut la faire correspondre avec l'œuvre de Rubens, mais on se rend bien compte que cela oblige quand même à lire Rubens d'une manière qui n'était pas celle de ses contemporains et qui n'était pas la sienne. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait.
Il y avait une joie de peindre pour lui, Nadège Lannery-Dagen.
Oui, je crois que Philippe a tout à fait raison. Il faut passer par beaucoup de filtres. Sa peinture est une peinture d'histoire, pleine de mythologie, pleine d'allégories, pleine d'événements que nous ne comprenons plus, pleine de portraits, nous ne savons plus qui c'est. Et si on passe par ces filtres, j'ai détesté Rubens quand j'étais jeune amateur de peinture. Je l'ai détesté et il a fallu surmonter cette détestation, c'est-à-dire passer par tous ces filtres qui font que, bon, ben, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui se passe tout à fait. Ce n'est pas grave. C'est une jubilation absolue, absolue de la peinture. C'est peut-être ça qui fait que, au fond de Rubens, ce qu'on redécouvre, c'est peut-être spécialement celui des esquisses. Elles ne sont pas montrées, c'était pas l'objet au musée du Luxembourg, mais les esquisses, elles poussent l'appareil historique beaucoup moins loin. En revanche, elles montrent la jubilation de la main qui peint. Et ça, je crois que c'est une chose tout à fait importante, de la même manière que, mais on les voit surtout en Angleterre, les paysages de la fin, qui sont des paysages introspectifs, des paysages sans histoire, qui alors là, pour le coup, sont modernes.
Dans la détestation, il y a toujours de l'amour déjà. Mais qu'est-ce que vous détestiez tant, du coup, au début? Qu'est-ce que vous n'arriviez pas à voir, que vous avez vu après? Qu'est-ce qui, avant que votre œil soit aguerri, jouait cet effet un peu répulsif?
Probablement précisément ce qui m'a attiré après, c'est-à-dire ce surplus de pigments. Cette hardiesse incroyable des couleurs, des roses, des blancs, de l'excès de chair, de l'excès d'être, de ces bleus, de ces personnages tellement rapprochés. C'est-à-dire au fond, ce qui m'a attiré, je crois, c'est l'excès, c'est-à-dire la pure peinture.
Et est-ce que c'est vrai qu'il y mettait du sang parfois dans ces pigments?
Alors ça, je ne crois pas. On peut dire ça, on peut peut-être dire cela, mais c'est tout aussi une légende, je pense. De très très vieux peintres, comme Titien, qui ont abandonné à la fin de leur vie les pinceaux pour peindre avec leurs doigts, presque avec leurs griffes. Mais Rubens, c'est un gentleman. Les humeurs, le sang, non, c'est son pigment qui pourra imiter le sang. Mais la légende en elle-même est montre la force de sa peinture et la force d'illusion de sa peinture.
Alors là, on est déjà sur le Rubens, peintre, artiste à 100%, mais vous évoquez dans votre monographie, Nadège Ladéry-Dagen, quelque chose d'intéressant, une autre figure de lui qu'il est important de rappeler. Et j'en reviens à cet animal politique ou diplomate qu'il était aussi. C'est son côté chef d'entreprise. Vous racontez que Rubens gérait tout le partage des tâches au sein aussi de l'atelier, une sorte de sous-traitance, la question des droits d'auteur. Il était hanté par... le risque d'espionnage qu'il pouvait y avoir, c'était pour le coup un artiste contemporain avant l'heure. Hein. On pense à ces grandes figures de l'art contemporain aujourd'hui qui sont presque des businessmen, des chefs d'entreprise de leur propre travail. Il savait déjà gérer tous cette dimension-là.
Ah mais il savait très très bien gérer cela. Il appartient, je ne veux pas relire Weber et l'esprit capitaliste et la fondation de à base protestante, si vous voulez. Mais il sait très 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 bien gérer tout cela. Vous savez, son grand-père, par sa mère, son grand-père maternel, est un fabricant et exportateur de tapisseries. La Flandre, ça produit des grands tapis. Les tapis, c'est facile à transporter parce que ça ne s'abîme pas dans le transport. On les roule et on peut les envoyer très loin. Et au fond, les deux modèles de Rubens, c'est la grande entreprise de Titien, qui est une entreprise capitalistique. Hein. Il a même le bois. Il achète des bois, il fait venir le bois. Le bois, il les vend en partie à la flotte vénitienne et en partie il fait des châssis avec. Eh bien, c'est le même modèle qu'à Rubens, c'est-à-dire il met au point la plus sûre organisation d'une entreprise avec sous-traitance pour un marché qui est celui des grands, pour lequel il fait des œuvres de très grande qualité lui-même, ou j'ai envie de parler de sous-produits, de produits dérivés, si vous voulez, comme les gravures qui sont expédiées jusque dans l'Amérique latine.
Et il était aussi un Européen, avant l'heure, Philippe Forest, catholique, pragmatique, peintre nationaliste un peu à sa manière. Quelle cause il servait, Rubens ?
Il avait une philosophie qu'il tirait de son éducation et qui était celle des hommes de son temps, donc une sorte de stoïcisme, d'humanisme, on peut dire, hein, en lequel nous pouvons nous reconnaître aussi. Mais je crois que la grande cause qu'il a voulu servir, c'est celle de la paix. Dans une Europe qui était quand même une Europe déchirée, et tout particulièrement cette partie de l'Europe donc qui correspond à l'actuelle Belgique et aux actuels Pays-Bas. Donc il a, dit-on, je ne sais pas exactement, je ne suis pas suffisamment érudit pour pouvoir rentrer dans ces considérations, mais il a été quand même, dit-on, l'un des artisans de la paix entre l'Angleterre et l'Espagne. Et il y a ce désir de paix qui se marque dans certains de ses tableaux. Et qui passe par la dénonciation des horreurs de la guerre. J'évoque longuement dans mon livre les deux tableaux qu'il a consacrés à 20 ans, 30 ans de distance presque, au massacre des innocents. Voilà, ce fut l'une des causes qu'il servait. Moi, je crois que l'un de ceux qui ont le mieux compris Rubens, en tout cas du côté des écrivains, et ils ont été peu nombreux, les écrivains français, à écrire sur Rubens, beaucoup moins que sur Rembrandt, par exemple, ou sur Manet, c'est Claudel. Claudel, qui était lui aussi un homme de paix, un Européen, un catholique, et qui insiste sur toute cette dimension-là. Les surréalistes reprochaient à Claudel d'avoir été à la fois ambassadeur et poète, mais Rubens, je le dis dans mon livre, il a fait la preuve qu'on pouvait être en même temps peintre et diplomate. Et là encore, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre, mais dont il témoigne de façon assez éblouissante.
Le goût des mots et le sel de la vie, on vient d'apprendre à l'instant le décès de l'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier. Elle était professeure au Collège de France, elle a tenu la chaire d'études comparées des sociétés africaines, un des grands noms de l'anthropologie française. On vous en reparle dans une dizaine de minutes dans le journal d'Antoine Mercier. Pour l'heure, France Culture, il est midi 22, la Grande Table, une grande table consacrée à la figure du peintre Rubens, du baroque en peinture au baroque en musique, extrait de Didon et Aîné de Purcell. Baroque avec Purcell. Rubens avait lui aussi représenté à sa manière cette scène de Didon et Aîné avec son paysage, avec le naufrage d'Aîné, une œuvre non datée précisément mais constituée autour de 1625. Peut-être Nadège Lanéry d'Agen avec vous. Un mot quand même qu'on s'attarde un instant sur l'un des tableaux de Rubens. Vous l'avez sous les yeux.
Oui, je suis très heureuse que vous choisissiez celui-ci parce qu'il fait partie de ces paysages atypiques, 1625. Il n'est pas encore tout à fait vieux, mais il n'est plus tout à fait jeune, qu'on voit très très rarement en France. Là, en l'occurrence, c'est une toile de Berlin. Et précisément, c'est une des choses qui nous touche parce que c'est un paysage qui est censé représenter un événement historique, le naufrage d'Aîné, donc la guerre de Troie, tout cela. Et le naufrage d'Aîné, pour être très franche, il faut le chercher hein, pour le trouver. C'est-à-dire que ça devient un prétexte à un paysage Aîné à la bonne idée de se noyer sur des côtes qui sont évidemment nordiques, sur des côtes qui sont évidemment flamandes, sur une mer pleine d'écume qui est évidemment celle des côtes de la Belgique actuelle. Et c'est la nuit et c'est l'automne. Le vent souffle, les feuilles, exactement la période où nous sommes aujourd'hui, traversent le tableau. C'est la nuit, il y a un phare. Apparemment, ce phare, ce sont peut-être des pirates qui l'ont allumé. C'est la seule flamme. Et ainsi, le bateau a fait naufrage contre des rochers. Il va être pillé et les hommes ont froid. Et on les voit à peine, tout petit peu, au premier plan, qui essayent comme les premiers hommes de l'origine du monde, de l'origine de l'humanité, de faire un feu. Et dans ce paysage qui pourrait être un paysage de détresse, il y a au fond un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel presque roux, qui est comme une promesse.
Vous vous intéressez, Philippe Forest, dans votre petit livre consacré à Rubens. Rubens, rien que Rubens, qui vient de paraître dans la nouvelle collection RMN Grand Palais, à trois tableaux du peintre flamand, paysage avec Saint-Georges et le dragon, le massacre des innocents avec la Vénus Frigida, le triomphe de la vérité aussi, autre allégorie. Mais je voudrais, comme il nous reste assez peu de temps, qu'on s'arrête un instant avec vous sur ce talent de portraitiste qu'on évoquait, portraitiste hors pair de la chair et de l'esprit dans ces figures. Philippe Forest, vous écrivez: de quoi ou de qui un portrait est-il l'image? Rubens propose un portrait allégorique, il déguise ce qu'il peint. Quelle vérité à travers ces portraits? La sienne ou ceux de ceux qu'il portraitisait? Est-ce qu'on peut dire que Rubens était partout dans les portraits de ceux qu'il peignait?
Ce qui m'a étonné et ce qui a été pour moi une des voies d'accès que j'ai emprunté pour essayer de d'écrire sur Rubens, c'est la remarque que fait Fromentin, qui est un auteur qu'on ne lit plus beaucoup, mais qui est un très grand auteur du 19e siècle, connu comme romancier, a consacré aux peintres du Nord un essai qui s'appelle « Les maîtres d'autrefois ». Et il dit que Rubens n'est pas très doué pour les portraits, ce qui semble assez étonnant quand même, et on en a de nombreuses preuves, notamment à
l'exposition. Ses portraits sont faibles, peu observés, superficiellement construits et partant de ressemblances vagues.
Parce qu'en fait, Fromentin dit Rubens se peint toujours lui-même alors qu'il devrait peindre autrui, si bien que tout portrait finalement est un autoportrait. Et c'est cette piste-là est l'une de celles que j'ai essayé de suivre en essayant de comprendre en quoi tout portrait, pour un peintre mais aussi pour un écrivain, est toujours un autoportrait. Rubens se peint lui-même lorsqu'il peint un autre, et lorsqu'un écrivain parle d'un peintre, c'est aussi sur lui-même qu'il écrit. C'était un peu le parti pris un peu méthodologique ou poétique que j'ai moi-même suivi, soi-même ou des gens dont il était proche. Et ce que Fromentin montre, et j'ai essayé de mener l'enquête qui ne m'a pas mené à grand-chose, mais qui est au cœur de mon propos, Rubens peint les femmes qu'il a aimées, ses deux épouses, sa fille, ses enfants. Il les peint lorsqu'il peint des scènes mythologiques, religieuses ou historiques. Donc essayer de voir quel jeu se joue entre l'autobiographique et l'allégorique dans la peinture de Rubens, ça a été quelque chose qui m'a intéressé, et particulièrement à partir des tableaux que vous venez de citer.
Comme vous, Philippe Forest, je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Enfant éternel et de Cru, Rubens perd sa fille jeune, trop jeune, Serena avait 12 ans. Ce motif de la disparition, cette fêlure, vous nous disiez tout à l'heure, Nadège Lanéry-Dagen, que ce n'était pas un peintre sans blessure. Cette fêlure, est-ce que vous la retrouvez dans la peinture de Rubens?
J'ai essayé de la retrouver à partir des portraits justement que Rubens a peint de sa fille. Il y en a un qui est très étonnant, qu'on trouve désormais à la maison Rubens à Anvers, et dont on peut trouver l'écho dans une toile qui figure au musée de l'Ermitage, dont personne n'est véritablement sûr qu'il représente la fille de Rubens. Il en est peut-être un portrait imaginaire, mais à travers les toiles que Rubens a consacrées au massacre des innocents, j'ai essayé de questionner, oui, cette figure de la perte qui est présente indiscutablement dans cette œuvre.
Nadège Lanéry-Dagen, un mot juste pour terminer avec vous. Vous le dites, lorsque Rubens meurt, sa renommée est immense. Il laisse une grande influence sur les maîtres qu'il a formés en Flandre. C'est aussi ça, un peintre qui a transmis à travers sa peinture et qui a fait école.
Ah oui, sans aucun doute. Il a fait école en Flandre et il fera école encore, mais alors un petit peu plus tard, au XVIIIe siècle en France. On ne peut pas concevoir la peinture de Watteau, la peinture de Fragonard, la peinture de Boucher sans une redécouverte au XVIIIe siècle, ce qui signifie un aboum de la peinture de Rubens.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Forest. Je rappelle le titre de votre court essai autour de la figure de Rubens, Rien que Rubens, publié dans la nouvelle collection littéraire de la Réunion des musées nationaux. Nadège Lanéry-Dagen, on peut revoir et réapprendre peut-être à aimer Rubens en allant en ce moment au musée du Luxembourg. C'est jusqu'au 14 janvier. Rubens, portrait principe. Puis je rappelle qu'il y a le catalogue de l'exposition et votre vaste monographie qui est actuellement republiée, consacrée à Rubens. Merci à tous les deux.